VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
17h à Ouagadougou, 19h à Kigali, bienvenue à notre journal. République démocratique du Congo, la communauté internationale inquiète au sujet de l'impasse politique dans le pays. D'une seule voix, les Nations Unies, l'Union africaine, l'Union européenne et l'Organisation internationale de la francophonie se disent de plus en plus préoccupés par le blocage des discussions sur l'application de l'accord de sortie de crise. Jacques Aristide.
Dans un communiqué commun ce jeudi, les quatre organisations sont d'avis que cette situation porte en elle le risque de saper la volonté politique qui a permis la signature de l'accord le 31 décembre dernier. Jusqu'à maintenant, disent-elles, le dialogue sur les modalités de sa mise en œuvre ne va nulle part, d'où le rappel à toutes les parties prenantes, dont la majorité présidentielle et l'opposition, pour redoubler les efforts afin de parachever promptement les pourparlers en cours. L'accord prévoit la cogestion du pays jusqu'à l'élection d'ici à la fin de l'année d'un successeur au président Joseph Kabila, dont le maintien au pouvoir est à l'origine de la crise. Ce sont précisément les négociations pour le partage des places au gouvernement qui piétinent. La mort de l'opposant historique Étienne Tshisekedi est venue compliquer les choses, car elle ouvre la voie à une lutte pour le titre envié de chef de l'opposition.
Toujours concernant la RDC, les autorités congolaises ont annoncé ce jeudi à Kinshasa la reprise du championnat de football de première division dans le pays, la Ninafoot, deux mois après sa suspension pour des raisons de sécurité. Le gouvernement a levé la mesure de suspension parce que la FECOFA, la Fédération congolaise de football association, a fourni des garanties sécuritaires et proposé des mesures draconiennes d'encadrement des matchs, a déclaré le ministre congolais des Sports, Willy Bakonga. Les autorités avaient suspendu le championnat le 15 décembre 2016, cinq jours avant la fin du mandat du président Joseph Kabila le 20 décembre, par crainte, disait-elle, d'envahissement de terrain et de jets de pierre pendant les matchs dans le cadre de manifestations à caractère politique. On passe à l'Angola. Le vice-président angolais Manuel Vicente est accusé de corruption, de blanchiment d'argent et usage de faux par la justice portugaise. C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui le procureur général à Lisbonne, Saloua Jafari.
En somme, Vicente est accusé d'avoir versé des pots de vin à un magistrat portugais pour qu'il penche en sa faveur dans deux investigations du temps où il était directeur général de Sonangol, la société pétrolière nationale. Le magistrat en question n'est autre que l'avocat de Vicente et son représentant au Portugal. Il est également sur le banc des accusés dans le cadre de l'opération appelée FIS. Les enquêteurs accusent Vicente d'avoir versé 808 000 dollars à Orlando Figueira en prison depuis un an pour abandonner deux enquêtes sur le blanchiment de capitaux et des investissements angolais au Portugal. Les autorités ont saisi environ 540 000 dollars du magistrat. Ces montants ont été trouvés dans des banques en Andorre. Manuel Vicente occupe le fauteuil de la vice-présidence angolaise depuis 2012.
RCA, l'UPC, un groupe armé centrafricain issu de l'ex-rébellion Séléka, a assassiné en décembre 2016 32 civils à Bakala, préfecture de la Waka dans le centre du pays. C'est ce qu'a affirmé ce jeudi l'Organisation de défense des droits humains Human Rights Watch. Selon l'ONG humanitaire, le 12 décembre, les rebelles de l'Union pour la paix en Centrafrique, l'UPC, ont exécuté 25 personnes qui avaient été convoquées dans une école pour ce qu'elles croyaient être une réunion. Et plus tôt ce même jour, un groupe de combattants de l'UPC avait détenu et abattu sept hommes qui revenaient d'une mine d'or à proximité, précise Human Rights Watch. Bakala est situé dans un secteur où des affrontements meurtriers opposent régulièrement des factions rivales de l'ex-Séléka près de la ville de Bambari. Pour leur part, le gouvernement centrafricain et la MINUSCA, la mission de l'ONU sur place, demandent de nouveau au groupe armé de cesser les hostilités. Théodore Youssou, porte-parole du gouvernement centrafricain, les exhorte aussi à intégrer le processus de désarmement, démobilisation, réinsertion et rapatriement, DDRR, pour le retour définitif de la paix en Centrafrique. Crise au Burundi, les efforts pour relancer les pourparlers de sortie de crise dans le pays semblent dans une impasse totale ce jeudi, le gouvernement burundais refusant de discuter avec l'opposition et ouvrant même la voie à une réforme de la Constitution nationale. Le médiateur régional dans cette crise, l'ex-président tanzanien Benjamin Mkapa, avait invité le gouvernement du Burundi et son opposition à venir discuter aujourd'hui à Arusha, en Tanzanie, des questions de fond qui alimentent depuis près de 2 ans la crise politique burundaise. Cette crise, qui a fait plus de 500 morts et poussé plus de 300 000 Burundais à l'exil, a été déclenchée par la candidature controversée du président Pierre Nkurunziza à un troisième mandat en avril 2015. Ce dernier a été réélu en juillet de la même année au terme de scrutin boycotté par l'opposition.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Crise migratoire, quelques 170 migrants sénégalais qui se trouvaient dans des centres de rétention à Tripoli en Libye ont été rapatriés ce jeudi vers leur pays. Le groupe entièrement composé d'hommes a pris l'avion aujourd'hui à l'aéroport de Mintiga, à l'est de Tripoli, dans le cadre d'un programme de rapatriement supervisé par l'Organisation internationale pour les migrations, l'OIM. Mardi, près de 200 migrants nigériens en Libye étaient rentrés dans leur pays dans les mêmes conditions. Les passeurs de migrants clandestins profitent du chaos qui règne en Libye depuis la chute du régime de Muammar Kadhafi en 2011. La plupart des départs ont lieu depuis l'ouest du pays à destination de l'Italie, qui ne se trouve qu'à 300 km. Nous passons maintenant au Burkina Faso. Le transport du fret burkinabé par la route via le corridor ghanéen traverse actuellement une passe difficile. Le torchon brûle entre plusieurs acteurs de ce secteur et un groupe de transporteurs indépendants accuse l'organisation des transporteurs routiers du Burkina Faso d'entraver leurs activités avec la complicité du conseil burkinabé des chargeurs. De Ouagadougou, plus de détails avec notre correspondant Issa Napon.
La bataille fait rage entre l'organisation des transporteurs routiers du Faso OTRAF, organisation fêtière des transporteurs d'un côté, et de l'autre un groupe de contestataires constitué d'un syndicat et d'une société de transit installée au Ghana. Pour ces derniers, l'OTRAF a une mainmise insupportable sur les activités de transport du fret, notamment celui depuis le corridor ghanéen. Toute chose qui pèserait sur leurs activités, le transitaire de la société GNE Shipping, Romuald Sawadogo.
Depuis 2014, le CBC a essayé d'instituer un document qui s'appelle bon de chargement. Dès que nous sommes prêts pour entrer faire le chargement à l'intérieur du port, il faut qu'on passe par le CBC pour prendre ce document. Vous ne pouvez pas aller dans le port de Tema faire vos chargements librement tant que ce n'est pas le CBC qui prend votre fret. Donnez à l'OTRAF qui décide de ce qu'il veut faire.
Le bureau de l'OTRAF a fini par sortir du bois pour rétablir ce qu'il appelle des contre-vérités. Son président, Issoufou Maïga.
Un adage qui dit, si un menteur vous devance, c'est le chef, vous avez tout à fait un problème.
ASE nous a saisi. On l'a dit que nous ne percevons pas de l'argent pour des bons de chargement. Vous avez vu la copie des bons de chargement, ce ne sont pas des imprimés à valeur. Je ne force pas quelqu'un à cotiser. C'est pour ça que je vous ai dit que nos cotisations partent de 300 francs à 35 000. Donc l'assistance aussi, nous dépensons près de 1 500 000 francs par mois pour assister.
Romuald Sawadogo, responsable de la société GNE Shipping, s'insurge contre des textes qui donnent du pouvoir à l'OTRAF sur tous les chargeurs de fret. Des textes pourtant légaux, issus par l'autorité, se défend le président de l'OTRAF qui laisse entendre que les accusateurs travaillent dans l'anarchie et en dehors du quota fixé par le Burkina et le Ghana, à savoir 2/3 des fret transportés par des Burkinabés et 1/3 par des transporteurs ghanéens. Position d'ailleurs défendue par un représentant de l'Union des chauffeurs routiers du Burkina, UCRB, qui applaudit l'action de l'OTRAF, Tassiré Ouedraogo.
À partir de 2014-2015, vous arrivez à Wara Inter, c'est bourré de camions ghanéens. Pendant que nos frères sont au Ghana, ils dorment sous leurs camions. Ils vont passer leur temps à aller à l'OTRAF, prendre quelques 10 000 FCG Trap pour soigner leurs apprentis ou eux-mêmes, et n'ont même pas à manger.
Plus de 80% du fret à destination du Burkina Faso transite par la route, ce qui en fait un domaine qui suscite des appétits. Une bataille pour le contrôle du fret qui promet d'autres développements. Issa Napon, Ouagadougou, VOA Afrique.
Actualité américaine maintenant, le secrétaire d'État américain Rex Tillerson est à Bonn en Allemagne pour une réunion du G20, le forum des pays riches et émergents. Les États-Unis envisageront de coopérer avec la Russie lorsque nous pourrons trouver des domaines de coopération pratiques qui serviront les intérêts du peuple américain, a déclaré Rex Tillerson après une rencontre avec son homologue russe Sergei Lavrov. Lorsque nous ne serons pas d'accord, les États-Unis défendront leurs intérêts et les valeurs et ceux de leurs alliés, a ajouté Rex Tillerson en exhortant Moscou à respecter les accords de Minsk en 2015 et à contribuer à une désescalade de la violence en Ukraine. Par ailleurs, les États-Unis auront un dialogue politique avec la Russie de Vladimir Poutine, mais Washington n'envisage pas pour le moment de collaborer avec Moscou sur le plan militaire. C'est ce qu'a affirmé aujourd'hui le secrétaire américain à la Défense, James Mattis, à l'issue d'une réunion de l'OTAN à Bruxelles. Le patron du Pentagone a également donné des assurances sur l'engagement des États-Unis auprès de l'OTAN. Merci de votre attention.